Quitter Paris pour réapprendre à vivre au rythme des saisons et de la terre, c'est le pari un peu fou mais profondément sincère qu'ont choisi de faire Laure et Thomas de la ferme du séchoir à Baie-Léma. Loin du tumulte urbain, avec une passion immense pour la culture des aromates, plus de 40 variétés différentes. Un endroit où chaque senteur raconte un choix de vie, où chaque récolte porte les traces d'un quotidien plus simple, plus vrai. Découvrons le parcours de ce couple, Laure et Thomas.
Votre parcours à tous les deux est différent.
Oui.
Thomas, vous me disiez que vous avez travaillé pour France Télévisions.
Oui, j'étais JRI. JRI, journaliste reporter d'images. Là, ça va faire, c'était en 2020, donc 6 ans.
Et pendant ce temps-là, Laure, vous faisiez quoi ?
Moi, j'ai travaillé longtemps dans la restauration, plus d'une dizaine d'années en cuisine. Bon, j'ai fait des postes divers et variés, on va dire, de la cantine au semi-gastro, en passant surtout par la cuisine bistronomique. Je pense que c'est ça qui me convenait le mieux.
Je ne voudrais pas être trop curieuse, mais comment vous faites pour vous rencontrer ?
On habite tous les deux à Paris. Oui, enfin, je suis originaire de Toulouse. J'ai commencé à travailler en cuisine à Toulouse, c'est vrai. Mais après, j'ai aussi voyagé, j'ai aussi habité dans d'autres pays. Et en 2013, peut-être, la décision de s'installer à Paris pour avoir des postes aussi plus intéressants, une ouverture sur la cuisine peut-être plus dynamique qu'il pouvait y avoir à Toulouse à ce moment-là. Et voilà, quelques années donc, du coup, de travail à Paris, qui étaient des années assez géniales pour le travail pour moi à ce niveau-là. On peut voir des choses tellement variées,
oui.
C'est assez excitant quand même, mais un peu fatigant aussi.
Lequel des deux a décidé ce passage au vert d'arriver en Périgord ?
On l'a choisi tous les deux, je pense, oui. C'était d'accord.
Non, toi t'as poussé en premier.
Oui, peut-être que j'en ai parlé en premier, ouais.
Oui.
Oui.
Et un ras-le-bol au travail qui m'a fait dire oui.
C'était un oui très volontaire, quand même.
C'était un oui très volontaire.
Le parcours, vous avez choisi votre région, vous aviez déjà une attache ici, en Dordogne, ou non. Le hasard, ou vous avez tourné
dans le coin ? Non, c'est pas tout à fait le hasard, ça, disons
que... Non, c'était le fruit d'une certaine réflexion, quand même.
Oui. Alors déjà, c'était un peu à mi-chemin entre Paris et Toulouse, donc pour nos familles respectives, c'était sympa aussi. Bon, ça, c'était...
On avait quelques critères aussi, on voulait être pas loin d'une grande ville.
Voilà, ne pas être trop enclavé.
De proximité de Bordeaux. Nous intéresser aussi.
C'est-à-dire, je sais pas, on va être. C'est pas la même.
Non, il y avait la proximité de Bordeaux et le climat qui nous permettait de réaliser les productions qu'on souhaitait mettre en œuvre aussi.
Et il fallait
quand même.
Et il fallait de l'eau.
Un climat, de l'eau, ouais.
Voilà. On y était allé quelques fois en vacances et ça nous plaisait bien quand même. Les paysages, les gens, on avait fait des rencontres plutôt sympas. Et voilà, et on s'est dit, bon, il y a quand même pas mal de cases qui sont cochées avec la Dordogne, donc on part à fond là-dessus, quoi.
Ouais. Donc, faut trouver après le lieu, le bâtiment.
Ouais.
Faut monter le projet, faut aller voir les banques.
Ouais.
Ouais.
C'était pas le plus drôle de l'histoire.
Ouais. Ça a mis du temps.
Ouais, les banques, c'est toujours particulier. Quand on a un projet parfois original, c'est pas toujours simple.
Disons qu'on est arrivé quand même pour la globalité, c'est-à-dire entre le montage du projet, enfin, la maison, le montage du projet, tout l'administratif, effectivement le financement, etc. On est arrivé ici en décembre 2020. Et on a ouvert l'année dernière, en l'été 2025.
Oui, après on a une fille aussi.
On a fait une fille aussi.
Vous avez fait un bébé en tout cas.
Ouais. Voilà, c'est ça. Un heureux événement, mais ça ne nous a pas aidé du côté
donc,
pro.
Du coup, le projet était toujours là, le projet a été construit, mais peut-être un peu plus ralenti, parce qu'il y avait beaucoup de choses au niveau familial et administratif à réaliser avant... on va dire, pleinement actif.
Au
final,
on a mis 5 ans à ouvrir, quoi.
Et pour vous, la culture biologique, c'était une priorité ?
Ah oui, c'était une évidence. Oui. Enfin, la question ne s'est pas posée.
Alors oui, disons que culture biologique, c'est pas pour autant, pas forcément pour exprès pour le label, mais dans la façon de cultiver et la protection de la biodiversité, etc.
Ouais, culture raisonnée.
Oui.
Disons que c'était pas un effort pour nous de faire de l'agriculture biologique, mais ça allait de soi en fait de fonctionner comme ça. Donc autant être bio.
Voilà, c'est ça.
Et là, vous avez un secteur spécifique, c'est les aromates.
Oui.
Bon, pas que, il y a aussi les jus de fruits.
Oui, mais avec toujours ce fil directeur quand même qui tient un peu le fil d'Ariane. Qui
les
tient tout ça.
Les épices, les aromates.
Il faut une formation, comment ça se passe pour connaître toutes ces plantes où vous étiez déjà passionné?
Je crois que c'est un long cheminement parce que quand on était à Paris, on faisait pas mal de sorties aussi pour la flore sauvage, en fait, comestible. Quand même, c'était déjà un intérêt à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand on avait un peu de temps, on faisait déjà ces sorties-là. D'auto-formation, de balade plaisir pour connaître un petit peu tout cet univers-là qui est quand même assez vaste. Et puis après, on continue à se former tout le temps, on apprend toujours des choses. Hein.
Toi, tu as fait une formation en agriculture, mais à part ça, non, c'est...
Oui, c'est pas ça qui fait ma formation sur les aromatiques, en fait. La formation sur les aromatiques, c'est peut-être aussi l'expérience de la cuisine avant aussi qui fait qu'il y avait déjà pour moi un attrait. Je reste convaincue que les plantes aromatiques font aussi l'identité des plants, en fait, quelque part. Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais c'est quand même une grande identité d'un plat où c'est qu'on va quand même facilement dire avec quel aromate on l'a cuisiné, avec quelle épice on a mis dedans et qui donne la couleur à un produit qui est plus générique.
Vous avez la cuisine tous les deux.
Alors, c'est surtout moi qui cuisine, toi, t'aimes
bien
manger.
Ouais, moi, j'aime bien manger.
D'accord.
Là, pour le coup, on est très tradis sur ce côté-là. Je me débrouille à bricoler des trucs, mais j'aime bien les bonnes choses.
Alors, restez pas cantonné juste à la plantation des aromates. Vous faites des alliages. Vous avez votre propre touche. Vous arrivez à mélanger des aromates. Vous faites des tests sur des plats, ça prend beaucoup de temps, ça.
Élaborer un mélange, oui, ça se construit déjà mentalement. On se fait une idée du produit, quel pourrait être le résultat final. Et après, il faut tester, il faut arriver à avoir la bonne proportion. Enfin, en tout cas, celle qui nous fait dire, ben là, c'est pas mal, on est... Je ne dis pas que les mélanges n'évolueront pas, hein. Il y a des choses qui s'affineront peut-être aussi avec le temps, mais en général, quand on met un mélange en vente, c'est qu'on a estimé pour nous qu'il était déjà suffisamment intéressant pour le faire découvrir à d'autres personnes, en fait, qui sont peut-être curieuses aussi de découvrir de nouveaux produits. Il faut nous faire confiance, en fait.
Oui.
Avec une grande variété, on fait des pickles aussi, avec les jalapenos. Enfin, c'est vraiment un piment du quotidien. C'est un qui va être le plus consommé. Et qui est du coup parfumé, piquant certes, mais qui reste accessible, on va dire.
Oui, voilà, c'est un peu leur piment d'Espelette à eux. Quoi.
Oui.
Un peu plus fort que le piment d'Espelette, mais c'est pas non plus...
Oui, sur l'échelle de Scoville, il est un peu plus grand. L'échelle de Scoville, c'est ce qui détermine le piquant du piment. Combien de fois il faut diluer un piment pour ne plus le sentir? Et donc plus le numéro est élevé, ça veut dire que plus le piment est fort, ça veut dire qu'il faut le diluer plus de fois. Et donc le piment jalapeno est quand même relativement en bas de l'échelle. Parce que maintenant, les piments sont c'est un fruit qui se croise très facilement. Donc on arrive à créer des nouvelles variétés en permanence. Et donc là, on peut toujours créer des piments plus forts, en fait. Voilà, je pense que ça n'a pas de fin sur le... Nous, ce n'est pas les piments qui nous intéressent le plus. Nous, c'est pas le fait que ça soit avec un numéro extraordinaire sur l'échelle de Scoville, mais que le piment soit parfumé, qu'il soit bon et qu'on puisse vraiment en faire un condiment du quotidien, quelque chose qu'on peut utiliser facilement. Quoi.
Alors qu'on peut mettre en marinade ou simplement comme ça sur une salade, c'est ça ?
Assaisonnement minute aussi, ouais.
Chacun peut faire de vos aromates ce qu'il désire ?
L'idée, c'est ça,
vous
un petit peu. C'est notre créativité à nous. On la repasse un petit peu après à la personne qui va utiliser le produit et qui va en faire un petit peu... ce qu'il en veut, et surtout de bonnes choses, enfin, on espère. Et la créativité de chacun, je pense qu'elle n'a pas de limite.
C'est-à-dire que ça peut s'utiliser très simplement comme
y a pas besoin,
un peu plus complexe. Quoi.
On peut faire quelque chose de technique ou pas, c'est très facile à utiliser. C'est ce qu'on voulait faire aussi, c'était rendre les choses un peu
poudre, la plupart, en tout cas pour ce qui est sec, comme c'est des poudres, de toute façon, dès que tu le mets quelque chose d'humide, se marie et ça donne du goût. Quoi.
Oui. On dit des fois qu'il faut faire chauffer un petit peu certains épices dans une poêle. Est-ce que c'est vrai?
Oui. C'est vrai. Ouais. C'est, souvent, la torréfaction, mais c'est valable pour les épices, mais c'est valable pour les fruits secs. Ça, la chaleur, un petit peu ce côté exhausteur de goût qui est agréable. Donc c'est vrai qu'on peut le faire. Mais après, si on n'a pas le temps et qu'on ne le fait pas, c'est pas très grave non plus.
Vous avez planté combien d'aromates en tout?
Je sais pas, à vue de nez, je dirais de l'ordre de 30-40 variétés différentes. Mais après, c'est vrai que comme disait Thomas, des fois, c'est des productions qui vont être sur quelques plans seulement, en fait. Ça va être parce que c'est pour un essai, parce que c'est on ne sait pas trop comment encore le transformer. Donc des fois, c'est à toute petite échelle. Et il y a des choses qui vont être cultivées de manière plus... C'est vrai que, par exemple, les tomates et les piments, c'est des choses qu'on fait en plus grande quantité.
Ouais, les pommes de terre, pour le restaurant, par exemple, on en fait pas mal.
Oui, parce qu'après, il y a l'autre partie, restauration.
Pour les aromates, avant justement de parler du camping et puis aussi de la restauration, ça fait combien de temps que vous avez ouvert la boutique ?
Ben là, c'était cette année. L'été dernier, c'était uniquement le restaurant.
Oui. Bon, on avait commencé l'été dernier avec les premiers mélanges, les sels au piment.
Oui, il y en avait.
Si, c'est là qu'on a commencé, les premières.
C'est ça, ouais, on a
parce
commencé.
Parce qu'avant, enfin, disons qu'on a fait la période de test, il a fallu arriver
c'est
à.
C'est vraiment
tout ça,
l'année starter.
C'était l'année dernière, on va dire, l'année. Et là, c'est la deuxième vitesse, on va dire.
C'est ça.
Deuxième vitesse avec la boutique. Mais aussi donc une table de ferme, oui. Mais une table végétale.
Tout à fait.
Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Il était juste évident pour nous. Nos cultures sont végétales. Tout ce qu'on produit est végétal et ce qu'on a envie de mettre à l'honneur sur la table, c'est le végétal qu'on produit. Donc il était pour nous, ça a été une évidence de.
Bah, c'est-à-dire que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est une table, c'est de la dégustation de produits fermiers. Mm-hmm. On fait pas de production animale, à part les abeilles. Mais
c'est oui, et puis c'est donc produit qu'on veut mettre à l'honneur et pas. Et
voilà, donc on va. De toute façon, on produit pas on fait pas d'élevage.
Oui, enfin, en tout cas, dans les campagnes, je pense que c'est des projets qui émergent peut-être de plus en plus. On n'est pas les seuls à faire ça. Après, c'est vrai que ça reste peut-être commun qu'effectivement, la vision traditionnelle de la ferme auberge avec de l'élevage et comme ça. Mais je pense que ça a quand même tout son sens aujourd'hui, quand même, de mettre à l'honneur les produits que chaque ferme peut présenter, et même si c'est végétal, ça a aussi son intérêt. Et on arrive à présenter quelque chose qui rend hommage à nos productions. Enfin, en tout cas,
et disons que si un jour on introduisait de la viande dans le menu, on inverserait les choses, c'est-à-dire que la viande serait presque l'accompagnement.
Oui,
c'est souvent ce qu'on dit, c'est la viande et son accompagnement.
Et nous, là, c'est l'accompagnement et la viande.
Voilà, si un jour on servait de la viande, ce qui n'est pas...
C'est pas l'ordre du jour.
On se posait la question, peut-être, un peu de gibier, parce qu'il y a quand même pas mal de chasse.
On trouvait que la seule chose qui pourrait avoir du sens, c'est d'utiliser, par exemple, la viande de sanglier.
Qu'y a-t-il dans ce menu végétal ?
Bonne question. Alors, ça dépend...
On va dire quand ?
Alors,
de quand ?
Fin juin jusqu'à mi-septembre environ. Oui. Donc du coup, le menu évolue au fil de l'été, au fil de la saisonnalité. En fait, on suit le jardin comme il produit, on s'adapte. Mm-hmm. Enfin, c'est une conversation avec le jardin quelque part, parce que c'est moi qui ai semé ce qui pousse, mais c'est le jardin qui me dit quand c'est prêt aussi, enfin quelque part. Donc voilà. On est un petit peu dans cette conversation-là. Et donc, du coup, le menu évolue tout doucement au fil de l'été, au fil des saisons. Quand les pois gourmands sont encore là, ils font partie du menu. Puis quand les tomates arrivent, elles rentrent dedans. Et puis ensuite, c'est les poivrons. Enfin, voilà, tout comme ça. Il n'y a pas de bouleversement particulier d'une semaine à l'autre, puisque, à part quand il y a un nouveau légume ou plante qui est prête, mais sinon, c'est une longue transformation tout l'été sur nos menus. Pour moi aussi, ne pas m'ennuyer, j'essaie aussi de varier un petit peu les choses. Et voilà, c'est aussi le rendez-vous chaque semaine, puisqu'on le fait que le vendredi soir et le samedi midi. Donc du coup, chaque rendez-vous chaque semaine, il y a pour moi une petite réflexion quelques jours avant de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va proposer ce week-end-là et voilà, les choses se construisent assez naturellement, finalement, avec les récoltes, les arrivées de... Ouais, le changement de la saison, en fait, c'est...
Mm-hmm. Et le camping, alors ? On peut déjà réserver ?
Alors oui, tout à fait. Oui, on peut réserver. Après, normalement, on est ouvert à partir du mois de juin. Mm-hmm. C'est une diversification qui est permise par le statut d'agriculteur. On a le droit à, je crois, 5 emplacements, 25 personnes.
Il y a la volonté dans le projet d'accueillir des gens sur la ferme.
Il y a quand même, oui, voilà, avec le restaurant, etc.
Il y a une logique aussi de...
Il y a une logique de synergie. C'est-à-dire que les gens qui viennent au camping vont peut-être aller à la boutique, peut-être aller au restaurant. Voilà, c'est
une... ouais, ça, le projet a été vu dans une globalité, en fait.
Et alors, le camping, c'est aussi un... Donc pareil, là, ça va être derrière les pins qui sont juste là. C'est sur un près d'un hectare, donc pareil, même principe, fauche tardive, avec des chemins, on peut se balader. Et il y a 4 emplacements sur un hectare, donc les gens ne sont vraiment pas les uns sur les autres.
Mmh. Et ça vous oblige à avoir des sanitaires, à avoir, ouais, mettre des alors, choses en place.
Ouais, bien sûr. Bah, tout est, c'est les mêmes, alors les toilettes, c'est les mêmes que pour le restaurant. Tout se passe dans le bâtiment du séchoir. Oui. Et ouais, effectivement, on a fait une douche, une jolie douche, mais il n'y en a qu'une. Peut-être qu'un jour, on aura une douche solaire.
Disons qu'on n'a pas vocation à accueillir énormément de personnes en même temps.
Voilà, c'est ça.
Déjà,
c'est ça. Ouais, voilà. De toute façon, voilà, comme tu dis, on n'est que deux, on ne peut pas gérer tout le monde à la fois.
Que les gens puissent aussi profiter de ce contact avec la forêt en étant tranquille. En fait, l'idée, c'était qu'il y ait de la place, qu'il y ait de l'air, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde non plus.
Bah, disons que c'est presque du camping sauvage, mais sur un emplacement plat, un peu d'ombre, c'est autorisé, oui, bien sûr, et tu vas pas te faire attaquer par des sangliers parce que tu es quand même clôturé par une petite clôture qui empêche les sangliers de passer.
On est vraiment dans le slow vacances.
Oui.
Ou les gens qui font une étape, qui peuvent dormir pour la nuit.
Non, c'est permettre parce que en fait, quand nous aussi, par exemple, on habitait en ville, c'est des choses qu'on faisait aussi. Je pense que c'est aussi partie de ça.
Ah bah moi, c'était ma vision du camping, ouais, clairement. Enfin, j'avais pas envie de créer un endroit où j'aurais pas envie d'être.
C'était créer un endroit qu'on aurait eu envie de trouver, je pense.
C'est ça. Quand même. Ouais, bien sûr.
Vous avez créé votre rêve. Vous avez l'impression de l'avoir créé.
On ne sait pas encore. Le jour où on arrivera. Enfin, à vivre ce projet, on pourra le dire.
Bah, un projet agricole, c'est sur un temps long. Enfin, il n'y a pas de retour immédiat, donc c'est vrai qu'il faut être patient. C'est vrai que ça se construit petit à petit. Et...
Cette adaptation par rapport à ce climat qui change.
Ouais. C'est qu'il va falloir de plus en plus pallier aux aléas du climat et aux épisodes intenses dans un sens ou dans l'autre. Et que ça va demander de plus en plus d'investissement en fait, pour pouvoir continuer à avoir une agriculture productive. Donc ouais, l'adaptation est toujours possible, mais au prix de plus en plus d'investissements et de la fatigue, la fatigue des agriculteurs.
Votre vision de l'avenir, même si vos projets se réalisent à peine, vous voyez un petit peu plus loin ?
Oui, après, je sais pas. Enfin, moi, j'ai toujours des projets pour l'avenir. Je me dis, tiens, on pourrait faire ça. Plein de pistes envisageables, plein de manières de transformer l'activité. Après, est-ce qu'il y a des certitudes aujourd'hui ? Non, aucune. Mais des pistes, oui, il y en a toujours. Après, cette adaptabilité permanente au niveau des cultures.
Mais c'est celle que vous avez choisie et qui vous offre aussi une certaine liberté.
Ah oui.
Oui, clairement. Ah oui, là on est libre.
Par rapport à votre ancienne vie professionnelle.
Oui, clairement.
C'est ça qui.
On est maître de nos décisions. On est maître de ce qu'on propose aux gens. Oui.
On vit dans un cadre quand même. Enfin, peu de gens peuvent avoir ce plaisir-là, quoi.
Ah oui.
Donc ça remonte aussi le moral. En plus, on est parents d'un enfant en bas âge.
C'était un peu.
Elle a 4 ans.
4 ans, oui.
Non, mais c'est vrai que par exemple, le fait de se dire cet été, est-ce qu'il y aura une canicule, combien de temps elle va durer, ça, c'est un stress qui, malgré tout, commence à être là dès le printemps. Mm-hmm. Comment on va s'organiser, comment on va faire, comment on va pallier à ça. C'est vrai que c'est des questions qui arrivent très tôt dans la saison. Et puis cette année, déjà, on voit qu'au mois d'avril, on se dit tiens, il fait déjà très chaud.
Vous avez plusieurs casquettes, c'est ça le souci. C'est-à-dire que vous avez le stress de l'agriculteur. Et le stress aussi du site touristique.
Il ne faut pas rater d'étape, oui.
Voilà, c'est...
Ouais, bien sûr.
Bah après, c'est un choix qui était celui qu'on voulait faire au départ. On démarre au semis et on finit à l'assiette, en fait. On avait choisi un peu de réutiliser le slogan du champ à l'assiette parce que ça nous paraissait illustrer bien notre activité. Donc c'est vrai que dès le semis, hop, on commence à être sur un questionnement. À quelle date ça va arriver ? Comment on va produire ça ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce qu'on n'est pas maître du climat ? On ne connaît pas la météo à l'avance, donc on ne sait pas combien de temps on va mettre les choses à être utilisables et arriver à maturité. Donc c'est vrai que c'est un questionnement, mais après c'est le jeu de ce qu'on fait aussi, donc ça on l'a accepté, ça il n'y a pas de souci, ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que toute l'année il y a ce stress là et l'été a un point culminant avec les sécheresses et qui arrive et qui oui. C'est qu'on se dit bon, est-ce qu'elle va durer une semaine, est-ce qu'elle va durer 2 semaines, est-ce qu'elle peut durer plus, et là ça devient vraiment inquiétant pour nous, ça nous laisse pas tranquille. Mais bon, après je crois que c'est le jeu de tous ceux qui essaient de cultiver quelque chose aujourd'hui. On est tous confrontés à la même problématique, avoir de l'eau, réussir à faire arriver une culture à son terme, en fait c'est quand même l'objectif de l'agriculture.
Et si tu rajoutes à ça tout le côté administratif,
Ouais, mais ça, je crois que c'est pas, c'est global à tous les
oui, entrepreneurs. Oui, ça, c'est pour tous les entrepreneurs. Malheureusement, en France, on est quand même très, très des grands spécialistes de ça. Et c'est vrai que des fois, on s'arrache un peu les cheveux.
Est-ce que vous avez envie de placer plus tard vos aromates dans des boutiques spécialisées? Et pourquoi pas à Paris?
Tout à fait.
C'était au programme.
C'est vrai que pour nous, un des débouchés principaux qu'on a imaginé, c'est les épiceries fines, clairement. On n'a pas une grande production, on a une petite production, mais qui est assez variée et qui peut, je pense, plaire à des gastronomes un petit peu curieux.
Et des restaurateurs aussi.
De restaurateurs aussi.
Vous avez pensé à aller rencontrer des restaurateurs?
Alors oui, tout à fait. Après, c'est une question de temps, toujours. Il faut avoir le temps. Mais oui, bien sûr. Après, tant que, enfin, nous, on vise pas un professionnel ou un particulier, mais plutôt un gastronome curieux. On va dire que c'est surtout ça notre cible de base et qui est aussi intéressé par le côté local de notre production. Bon, ben, les épices, maintenant, il y a énormément, on en vend beaucoup, on en trouve très facilement, ça c'est pas le souci. Et ben, nous, on essaie de faire une petite proposition, mais en production locale.
Des marques industrielles. On voit aujourd'hui des reportages. On voit, par exemple, que dans du poivre, il y a du sable.
Ouais.
Donc peut-être qu'aujourd'hui, le consommateur se tourne sur
du vrai. Même sans aller jusque-là, hein, parfois il y a juste de la farine de riz dans le mélange. Hein, juste pour que ça coûte moins cher et que le pot soit plus rempli. Hein. Ouais, oui, carrément.
Le consommateur change d'orientation.
Après, chacun fait avec sa bourse, son envie, ses désirs culinaires. Après, c'est vrai que nous, notre parti pris, c'est que quand il y a un pot d'épices, c'est 100% de l'épice. On ne met pas d'agent de charge, d'anti-agglomérant. Alors c'est vrai que parfois peut-être la tomate a tendance à coller un petit peu parce qu'elle a du sucre. Donc c'est vrai que peut-être il faudra gratter un petit peu parce qu'elle se sera un petit peu agglomérée. C'est notre choix de ne pas ajouter de produits comme ça. Parce que pour moi, si j'achète une épice, j'ai envie qu'il y ait que ça dedans. Et que bon, si elle fait des petits paquets, c'est pas très très grave.
Pour terminer, si vous étiez l'aromate de votre jardin, vous seriez quel aromate?
Difficile.
Ce sera un piment.
Ça dépend de la saison. Un piment, ouais. Bah, disons que. Non, ce sera un mélange, je pense, quand même.
Ouais. C'est un peu essentialisant de dire ça.
Non, c'est difficile de répondre à la question. C'est une bonne question, j'avoue, mais c'est difficile de répondre à la question. J'ai une affinité particulière avec le piment, donc. C'est vrai que ma devise, c'est un peu tout est meilleur avec du piment. C'est un goût personnel, voilà. Mais comme on parlait tout à l'heure du cassis, par exemple, qui est une plante qui est juste fantastique, avec cette odeur envoûtante, parfumée, voilà. Donc est-ce qu'il faut vraiment choisir? Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en cultive autant, c'est parce qu'on ne peut pas choisir non plus, en fait. C'est parce qu'on se dit, ah ouais, mais celle-là, elle est super, celle-là, mais ça, c'est chouette aussi, quand même, ça serait dommage de passer à côté. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de petits essais, plein de variétés. Sinon, on aurait été producteur de piment, enfin, on aurait fait un choix plus restreint.
Oui, ce serait plus simple, en plus.
Ça nous aurait peut-être facilité la vie, d'ailleurs. Mais
ce serait plus simple de faire de la monoculture,
clairement. Disons que c'est diversifié.
Voilà, c'est ça.
Bah, comme on se disait un petit peu, là, c'est un jardin un peu de cuisinier, quand même. On essaie d'avoir à disposition tout un tas d'ingrédients qu'on peut avoir du mal à trouver dans le commerce, ou qui, en tout cas, n'ont pas voyagé pendant des semaines quelque part. Nous, on a la chance, quand on fait un repas, de pouvoir aller le cueillir le matin, la veille, et le servir... et le servir tout de suite, de profiter au maximum de la qualité du produit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est agréable pour nous, de présenter quand même des produits comme ça.
C'est une satisfaction.
Oui, complètement, oui.
Et Thomas, vous choisissez quelle aromate?
La citronnelle.
La citronnelle?
Ouais. Okay. J'étais en Afrique quand j'étais enfant, et il y en avait qui poussaient là-bas, et du coup, ça me rappelle un peu mon enfance en Afrique.
C'est une Madeleine de Proust.
C'est ça, c'est une Madeleine de Proust.